Bonjour Marcel Dugas.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va presque toujours bien.
Presque toujours bien.
Presque toujours.
Bon, alors on va prendre le toujours bien,
oui, puis
on va
ça.
Oublier le presque, là, parce que notre vague plus pessimiste a été en début d'émission et là, on est rendu sur la voie de l'optimisme. Alors ce matin, vous allez nous parler du général Slocum.
Oui.
De la petite Allemagne, d'une tragédie maritime et de ses conséquences. Alors, on vous écoute nous lier tout ça ensemble.
Bien, Francine et Yvan, la date anniversaire du naufrage du Titanic approche. L'insubmersible paquebot a sombré au matin du 15 avril 1912. Et cette histoire-là est bien connue. Il y a eu le film, évidemment. C'est une tragédie qui suscite encore la curiosité 113 ans plus tard. Mais on dirait que le Titanic fait de l'ombre à d'autres désastres en mer survenus à la même période qui ont eu des bilans quand même assez similaires. L'Empress of Ireland, paquebot de la Canadian Pacific, qui a coulé dans les eaux du Saint-Laurent près de Pointe-au-Père, qui fait aujourd'hui partie de Rimouski, oui. 2 ans après le Titanic. Il y a eu Lusitania, paquebot torpillé par des sous-marins allemands 1 an, presque jour pour jour, après le naufrage de l'Empress. C'était pas une bonne période pour la navigation océanique. Mais la navigation domestique n'était pas une sinécure non plus, comme on a pu le constater lorsqu'un navire d'excursion nommé le General Slocum a pris feu dans les eaux de New York, faisant 1 millier de victimes et décimant tout un quartier de la ville. Le General Slocum, c'était un navire à vapeur fait de bois et propulsé par une roue à aube. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça, des navires qui ont une grosse roue sur le côté dont les pales font avancer l'embarcation. Le bateau est mis à l'eau en 1891 et va rencontrer plusieurs problèmes au cours de son existence. Il est entré en collision 2 fois avec d'autres navires, a frappé une barre de sable, s'est échoué à plusieurs reprises. Il a même été le théâtre d'une émeute alors que l'équipage a dû empêcher des plaisanciers ivres de prendre le contrôle du navire. Mais rien qui peut se comparer à ce qui s'est produit le 15 juin 1904. Les immigrants arrivent par millions aux États-Unis au 19e siècle, et ceux qui arrivaient d'Europe passaient très souvent par New York, même s'ils ne s'y installaient pas tous. Les immigrants, historiquement, ont tendance à se regrouper au moment de leur arrivée dans un même quartier, ce qui fait qu'une ville comme New York avait un Chinatown et beaucoup de petites choses, n'est-ce pas, une petite Espagne, une petite Pologne, on a eu plusieurs petites Italies. Mais à partir des années 1840, des immigrants en provenance des différents États allemands ont formé une petite Allemagne dans le sud-est de Manhattan, avant même que ne se crée d'ailleurs la Grande Allemagne. Le pays a fait son unité seulement en 1871. Le quartier comptait 50 000 résidents au début du 20e siècle. Ce n'était pas 100 % allemand, mais c'est quand même une très forte proportion de tout le quartier. Et on retrouve là tout le genre d'institutions nationales auxquelles on peut penser, des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques, des clubs sociaux, plusieurs tavernes, bien sûr, quoi que ça, il y en avait dans tous les quartiers. On avait des journaux en allemand publiés localement. Les gens provenaient des différents États, avaient tendance d'ailleurs à se regrouper dans des secteurs définis du quartier. Et on avait aussi nos synagogues allemandes, c'était avant la tragédie de la Shoah, et nos églises. Et c'est une église qui est au cœur de la tragédie du General Slocum. Chaque année, les paroissiens et paroissiennes de l'église luthérienne Saint-Marc, sur la 6e rue Est dans Manhattan, en plein cœur du quartier, organisaient une excursion pique-nique pour les enfants de la communauté après la fin des classes. C'était chose assez commune à l'époque. Dans les quartiers ouvriers, les communautés immigrantes, on vivait très souvent dans des logements surpeuplés, on grandissait sur le béton, très peu de verdure. On aimait organiser des sorties de groupes comme ça dans la nature. À Montréal, l'île Sainte-Hélène était fréquemment visitée par des associations, des corps de métier. On sortait les enfants et les adultes des fumées de la ville pour quelques heures. L'église Saint-Marc avait déboursé 350 $, grosse somme à ce moment-là, pour que les enfants et leurs mères puissent faire une croisière à bord du General Slocum et aller se récréer dans un parc situé sur la Long Island. On part de Manhattan à 9h30 du matin. 1358 passagers et 30 membres d'équipage sont à bord. Vers 10h, un incendie, possiblement causé par une cigarette ou une allumette mal éteinte, se déclare et est alimenté par de la paille et des chiffons imbibés d'huile. Et la réaction de l'équipage, franchement, sera en tout point inadéquate une fois qu'on réalise que le bateau a pris feu. On a souvent parlé des canaux de sauvetage du Titanic qui avaient été mal utilisés, tout ça. Croyez-moi, les mesures d'urgence à bord du Titanic, c'était la Cadillac comparativement au General Slocum. La Knickerbocker Steamboat Company, propriétaire du bateau, avait fait preuve d'une extraordinaire négligence. Les boyaux d'incendie dont on disposait étaient de mauvaise qualité et perçaient de partout. Et lorsqu'on a tenté d'utiliser un boyau de caoutchouc à la place, on n'est pas parvenu à détacher le vieux boyau de la prise d'eau. Et dès ce moment-là, l'équipage a abandonné la partie. Le feu était hors de contrôle, sauf qu'il peut. À la décharge des membres de l'équipage, on n'avait eu aucun entraînement d'incendie au cours de la dernière année. On n'était pas préparé à faire face à une situation comme celle-là.
Est-ce qu'il y avait des canaux de sauvetage?
Il y avait des canaux de sauvetage. Certains témoins ont dit qu'ils étaient attachés avec de la broche, d'autres qu'on avait carrément peinturé par-dessus. Ils étaient donc inutilisables. Et le feu faisait rage depuis 10 minutes lorsque le capitaine a finalement été mis au courant de ce qui se passait, c'est pas trop tôt. Il décide de mettre les gaz pour envoyer le bateau s'échouer sur l'île North Brother, située dans l'East River. Il aurait pu toucher terre plus tôt, mais il cherchait un endroit assez isolé pour ne pas risquer de mettre le feu à des constructions qui se trouvaient sur la terre ferme. Ce n'est pas nécessairement un mauvais raisonnement à prendre, mais 6 minutes passées à naviguer à grande vitesse, conjuguées au vent, ont aidé les flammes à se propager. Et les passagers, pour la plupart, ont dû se diriger vers l'arrière du bateau. Et la majorité des survivants se trouvaient parmi celles et ceux qui ont réussi à se rendre à l'avant. De là, on a pu sauter dans l'eau peu profonde quand on a finalement atteint l'île. Mais pour les autres qui se trouvaient à l'arrière, bloqués par les flammes, la situation était critique. Comme je le mentionnais, les canaux étaient hors d'usage. Il y a un des ponts surchargés qui s'est effondré, précipitant des centaines de personnes dans l'eau profonde. Il y a beaucoup de gens qui ont sauté et se sont rapidement noyés. On est à une époque où, en général, surtout dans les classes populaires des villes où on n'a pas accès à la plage ou à la piscine du country club, les gens ne savent pas nager. Et c'est une période où on porte beaucoup de vêtements, souvent faits de laine ou d'autres matériaux qui s'imbibent d'eau. Le seul espoir des gens, surtout ceux qui se trouvaient à tomber dans l'eau profonde, c'était les vestes de flottaison. Seulement, les vestes avaient été achetées 13 ans plus tôt, en même temps que l'inauguration du navire, et on n'avait pas pris l'habitude de les ranger. On les laissait en permanence exposées au soleil, à la pluie, peu importe, ce qui fait que l'extérieur des vestes se désagrégeait dans les mains des passagers qui ont essayé de les enfiler, et le liège qui se trouvait à l'intérieur s'effritait parce que de mauvaise qualité. Bref, les vestes n'étaient d'aucune utilité.
C'est ça, ils ne flottaient pas, en fait, quand ils sautaient avec, ils sautaient vraiment dans le fond.
C'est ça, les gens se sont retrouvés, les gens qui ont sauté d'une certaine hauteur dans l'eau profonde ont coulé directement. Mmh. Ils avaient pratiquement pas de chance de s'en sortir. 28 des 30 membres d'équipage ont survécu, dont le capitaine, mais le bilan chez les passagers est effroyable. On parle de 1021 victimes. Mmh. Et vous vous dites sans doute, il y a des gens qui ont dû répondre devant la justice pour leur négligence, pour leur rôle dans cette tragédie-là qui aurait dû faire beaucoup moins de victimes. Je pense que vous me voyez venir à la façon que j'ai posé la question.
Oui.
Évidemment que non. Il y a le capitaine qui a été condamné à 10 ans de prison pour négligence criminelle. Il a été libéré après 3 ans et demi en raison de son âge. Mais en réalité, on a fait de lui le bouc émissaire dans cette histoire-là. Les grands bonzes de la Knickerbocker Steamboat Company, les inspecteurs des incendies qui avaient inspecté le navire et n'avaient rien trouvé à redire, personne dans tout ce beau monde-là n'a eu à subir de procès. La compagnie a payé une amende pas très salée et ça s'est arrêté là. Et si vous regardez aujourd'hui une carte, Francine et Yvan, de New York, il n'y a plus de mention de la petite Allemagne. Le quartier a littéralement cessé d'exister. Et ce n'est pas à cause de la tragédie que c'est arrivé. C'est un processus assez normal, que c'est un quartier d'entrée pour une nouvelle communauté immigrante. Et après ça, on se déplace un peu partout à l'intérieur de la ville à mesure qu'on améliore notre situation sociale. Mais on imagine un peu l'impact qu'une tragédie comme celle-là a pu avoir sur le tissu social, alors que ce millier de victimes-là provenait presque entièrement d'un même quartier, même d'une même paroisse, et cette église luthérienne Saint-Marc, qui est au cœur de la tragédie, n'a elle-même pas survécu et est devenue une synagogue dans les années 1940.
Oui, c'est au départ, quand on a regardé ça, on se disait que c'est quelque chose qui est loin de nous, cet événement-là. Mais en vous écoutant, Marcel, et en voyant la non-responsabilité des dirigeants, c'est drôle, mais moi, ça me rappelle Mégantic. On n'est pas dans l'eau, mais il y a des similitudes.
Oui, effectivement. Puis là aussi, c'était pour essayer de tourner les coins ronds, sauver de l'argent,
ouais.
avoir à payer moins. Effectivement, je pense qu'il y a un parallèle ouais. à faire. Vous avez raison.
Bien, merci d'avoir porté ce sujet à notre réflexion. Et on se retrouve la semaine prochaine, Marcel.
À la semaine prochaine.